Il veut participer à la révolution de 1830 et il a écrit un texte qui s'appelle « Ma révolution de 1830 » et qui est un court texte. Et il n'a pas écrit d'ailleurs spécialement, on l'a détaché du reste de ses mémoires pour en faire un opuscule. Et c'est très très bien quand on lit ça. Donc on se dit, voilà, les deux colonels de hussards qui ont passé leur vie à se taper dessus, à se tirer dessus, prendre des coups d'épée, de sabre, etc., etc. Bon, voilà, ben, ils sont... Alors, voilà, c'est terminé.
On essayera de recevoir Olivier Rollin pour parler avec lui de Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est paru chez Gallimard et c'est vraiment un des excellents livres de la rentrée. Merci à toi, en tout cas.
Oui, merci à vous, à toi.
À bientôt.
À bientôt.
C'est la fin d'Idéo et Débat. Je vous recommande donc de lire « Qui vive » de Valérie Zenati, paru aux éditions de l'Olivier, ainsi que les ouvrages évoqués par Gérard Guégan. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec plein de choses au programme dans les émissions à venir. On retrouvera notre ami Patrick Péchereau pour un très beau roman qu'il a écrit sur Xavier Graal aux éditions Bruno Doucet. On retrouvera des premiers romans également, parce qu'on aime bien ça dans cette émission. Et puis tout un tas de bonnes choses. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Thank you. Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Ça paraît déjà loin et pourtant ce fut une expérience extraordinaire. Au début de l'épidémie de Covid, du 17 mars au 10 mai 2000, l'État français a organisé la suspension totale de la liberté de circuler et instauré un instrument de contrôle policier inédit, l'attestation. Grâce à une enquête sociologique massive, deux chercheurs, Théo Boulaka et Nicolas Mario, ont analysé cette situation et exploré les implications profondes de cette expérience d'obéissance de masse. Cette enquête a donné lieu à un livre, L'attestation, aux éditions Anamosa. Nous recevons ce soir l'un de ses deux auteurs, Nicolas Mario. Alors, première question, c'est comment, au cours de ce confinement, avec votre collègue, avez-vous eu l'idée de faire ce bouquin? Avez-vous saisi l'ampleur du phénomène? Et comment avez-vous lancé l'enquête qui vous a permis de faire ce livre?
C'est très simple, hein. Comme tout le monde, j'ai été très frappé de la brutalité, en fait, très, très efficace avec laquelle le gouvernement a mis en place l'attestation. Ça m'a paru une chose extraordinaire qu'on nous demande de nous autoriser nous-mêmes à sortir dehors, avec l'obligation d'enfermement qui allait avec. Moi, j'étais confiné dans le 20e arrondissement. On entendait au début les voitures de police qui tournaient dans le quartier avec des haut-parleurs en disant « Restez chez vous, il ne faut pas sortir », etc. Et depuis longtemps, je travaille sur les questions d'obéissance, de conformisme, sur d'autres terrains d'enquête. Et je me suis dit, tiens, là, il y a une occasion un peu inespérée de travailler sur ce nouvel instrument d'État qui demandait une obéissance à tout le monde. C'est ça qui est intéressant dans le confinement, je crois, quels que soient les milieux sociaux, quel que soit l'endroit où on vivait en France à l'époque, donc au printemps 2020, quel que soit son niveau de revenu, son âge, son sexe, etc., etc., on était soumis aux mêmes obligations. Et ça, c'est finalement un cas rare. Donc je me suis dit tout de suite, tiens, il y a là l'occasion d'essayer de développer une enquête. Problème, évidemment, on pouvait pas sortir ni se déplacer. Donc, comment faire? Donc là, très simplement, j'ai téléphoné à quelques collègues et amis, notamment ceux qui faisaient des enquêtes par questionnaire, donc je savais qu'ils étaient habitués de ça, et je leur ai dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de lancer une enquête par questionnaire en ligne, puisqu'on peut pas se déplacer, pour essayer de mesurer est-ce que comment les gens s'adaptent à ce truc, l'attestation, est-ce qu'ils trichent, est-ce qu'ils dépassent, est-ce qu'ils se conforment aux règles prévues par le gouvernement ou pas. Donc on a fait ce questionnaire nous-mêmes, parce qu'au début on voulait essayer de glisser quelques questions dans des panels déjà existants, et puis on n'a pas trouvé de lieu, les gens ne voulaient pas, enfin bon, bref, voilà. Donc on s'est dit, on va faire un questionnaire nous-mêmes. Ce qu'on a fait, avec pas mal de collègues de Toulouse, de Grenoble, de Paris, on s'est beaucoup appelé, on a bricolé ça, et puis on a fait un questionnaire qui est un peu trop long, mais qui a quand même donné des résultats hyper intéressants. 30 000 personnes ont commencé à le remplir, et 16 000 sont allées au bout. Ce qui est rare, hein, 16 000 personnes, c'est une enquête de très grande ampleur, beaucoup plus grande que tous les sondages qui a habituellement 1000 personnes représentatives, etc. Donc là, voilà, au bout du confinement, en fait, j'ai passé mon confinement à essayer de gérer cette enquête et de la diffuser le mieux possible.
D'accord. Et le questionnaire a été... vous dites que c'est dans la presse régionale que vous...
Ouais, exactement. C'est grâce
à la
presse régionale.
Vous avez fait la pub du questionnaire.
Tout à fait. En fait, j'ai contacté les différentes rédactions de la PQR. Et puis, on a commencé, je crois, le premier journal qui a accepté, c'est La Provence. Puis petit à petit, comme ça, par imitation, j'ai contacté les uns les autres. Et puis, voyant que leurs voisins le faisaient, ils se sont dit « Ah tiens, on va le faire aussi ». Je les remercie énormément, hein, parce que c'est notamment grâce à la presse quotidienne régionale, aux différents organes, évidemment, Ouest France, enfin tout, bon, tous les organes de presse à peu près. On a fait le tour de France comme ça. Et c'est grâce à eux, en fait, que l'enquête est d'aussi bonne qualité. Parce qu'on a une très bonne représentativité, à la fois nationale, hein, on a tous les départements, des répondants dans tous les départements sans aucune exception. Là, on couvre la France entière et on la couvre très correctement par rapport à ce que sont les équilibres ordinaires. En termes d'âge, ça fonctionne bien aussi, et même en termes de couleur politique. Au début, on était passé beaucoup par les familles et les connaissances des étudiants des facs de sociaux en France. Et là, on avait un échantillon plutôt biaisé à gauche. Alors que là, avec la PQR, on a rééquilibré à droite. Et on a, on a un déséquilibre politique plutôt correct par rapport à ce qu'est la représentativité nationale ordinaire. Il n'y a que du point de vue du genre. Mais ça, c'est le fait de toutes les enquêtes en ligne. Ce sont les femmes qui répondent majoritairement. Et c'est le cas aussi pour l'enquête La vie en confinement, donc on a appelé VICO pour rigoler, La vie en confinement. Là aussi, 70% des répondants sont des répondantes des femmes. Mais c'est le fait est, dans le monde entier, quand on fait des questionnaires en ligne, ce sont les femmes qui répondent. Voilà.
Ouais. Ok.
Majoritairement.
Ah oui. Et alors, est-ce que au moment où le gouvernement a sorti l'attestation, on a beaucoup dit que Macron avait été inspiré par un McKinsey, et c'est vrai ça ?
Alors ça, on n'en sait rien.
On sait pas ça.
Ce dont on est sûr, est-ce qu'ils ont aidé ? Peut-être, mais c'est pas sûr du tout, parce que le modèle qu'ils ont suivi, en fait, dans la plus grande urgence, hein, vous vous souvenez que tout ça s'est décidé en 24-48 heures, en fait, le gouvernement français a repris exactement l'attestation italienne. Au point même que les journalistes de Libération avaient montré qu'ils avaient même repris le PDF de présentation de l'attestation en le traduisant simplement de l'italien. Donc le modèle, c'est l'attestation italienne, un peu modifié à la marge, mais qui a pris des proportions ensuite, on va dire, très françaises. Par exemple, l'attestation italienne ne prévoyait pas ce qui sera le cas à partir du 23 mars, c'est-à-dire la limite d'une heure et d'un kilomètre autour de chez soi. Ça, c'est une caractéristique, une singularité très française. Voilà. Mais vraiment, le modèle, plus que McKinsey, c'est le gouvernement italien.
D'ailleurs, vous expliquez assez longuement dans le bouquin, enfin vous analysez quels ont été les pays d'Europe, en tout cas, qui ont eu les politiques les plus coercitives et les plus dures. La France est parmi les pays qui ont eu les politiques les plus dures. Et il y a une espèce de classification entre les pays du Sud et de l'Est de l'Europe qui ont été très très durs. Et les pays du Nord qui l'ont été beaucoup moins.
C'est quelque chose qui nous a énormément surpris. Et on n'avait pas tellement d'idées de ça, parce que le confinement, pour tous les pays du monde, mais particulièrement pour les pays européens, c'est un peu un enfermement dans les frontières nationales. Donc on a finalement peu vu, peu su ce qui se passait ailleurs. Et on a des images, en fait, du monde entier, d'avenues vides, ou de villes, ou de grandes places célèbres. La place Saint-Marc à Venise, enfin, il y a plein d'exemples à Pékin, à où vous voulez dans le monde, de places vides. Donc on a l'impression que le confinement, ça a été la même chose partout. Or, pas du tout. Et c'est ça, une des questions qu'on a essayé de poser dans le livre, c'est pourquoi les gouvernements ont fait des choix aussi différents les uns des autres, dans des conditions, parce qu'on nous dit, très souvent, hein, on nous dit, oui, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne savaient pas, c'était très compliqué, on ne savait pas ce que c'était que cette pandémie, on ne savait pas lutter contre, donc ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix que d'enfermer les gens. Or, ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait singulier aux États du sud de l'Europe. Curieusement, l'Italie, l'Espagne et la France, les pays du Nord, les pays de langue germanique, les pays scandinaves, même la Grande-Bretagne et tout, ont fait des choix tout à fait différents dans une même situation d'incertitude. C'est ça qui est intéressant. Ils n'en savaient pas plus que nous. C'est ce que dit très bien le Premier ministre néerlandais. Il dit « j'avais 50% des connaissances, mais je devais prendre 100% des décisions ». Et quelle décision il a prise ? Il a pris comme décision laisser les gens sortir librement dehors. Contrairement à nous. Hein, contrairement à nous. Et c'est pour ça que il est intéressant d'essayer de comparer et de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là chez nous, à la différence de plein d'autres pays qui, finalement, il faut bien le dire, à Berlin, par rapport à Paris, on n'a pas vécu la même chose. On n'a pas fait le même confinement. Pourquoi ? Parce que même si on recommandait aux gens de rester chez eux, ils pouvaient aller se promener librement, autant de temps qu'ils voulaient, aussi loin qu'ils le voulaient.
Justement, j'ai une question à ce propos. Donc, effectivement, dans le livre, vous mettez en perspective les différentes formes de confinement à travers le monde. En quoi les formes de confinement, de votre point de vue, sont-elles révélateurs de la vision politique des États ? Parce que cette question est évoquée dans le livre.
Oui, tout à fait. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est que le confinement tenait, le type de confinement choisi pour les gouvernements tenait beaucoup moins à la situation de la, locale de la pandémie, le niveau de contamination de la population, etc., que aux habitudes répressives des gouvernements, en fait. Hein. Et ce qu'on a montré, en tout cas, statistiquement, preuve à l'appui pour les pays européens, c'est que, par exemple, plus on a de policiers, plus on a de policiers municipaux notamment, et plus la répression pendant le confinement est forte, plus les interdictions sont marquées. Et là, il y a un lien statistique hein, évident entre les deux, qui marche très bien, qui n'est pas démenti par aucun pays. Et de ce point de vue-là, avec l'Espagne, l'Italie, on est beaucoup plus proche des pays d'Europe de l'Est, ex-pays d'Europe de l'Est, Pologne, Roumanie, etc., que encore une fois, des pays du Nord comme les Pays-Bas, l'Allemagne, évidemment les pays scandinaves, qui restent beaucoup plus libéraux hein, du point de vue des libertés publiques, qui ont fait le choix de les préserver malgré la pandémie, contrairement aux choix opérés par les gouvernements du Sud, en fait.
Encore une petite question. Effectivement, vous dites donc que les gouvernements, les États, en fait, ont été confrontés à l'incertitude. Mm-hmm. Donc, ils ont réagi face à cette incertitude. Et ils ont choisi de transformer la gestion sanitaire de la crise en gestion policière de la crise. Donc, certains États, pas d'autres. Évidemment, c'est le cas français qui nous intéresse particulièrement ici. Et du coup, comment vous expliquez ce choix, indépendamment aussi de la question culturelle, hein, de la question des habitudes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres arguments qui permettent de comprendre ce phénomène français ?
Alors, on en saura sans doute plus dans les années à venir, c'est-à-dire une fois qu'on aura accès aux archives de ce qui s'est dit. On ne sait rien, pas grand-chose, hein, des discussions qui ont eu lieu au sein même du gouvernement, au ministère de l'Intérieur évidemment. J'ai essayé de les contacter, d'en savoir un peu plus sur pourquoi ils avaient pris telle et telle décision. Bon, personne ne veut rien dire. Le conseil de défense qui était en place régulièrement n'a donné lieu à aucun compte-rendu. On ne sait pas ce qui s'y disait, etc. Il y a juste les décisions qui étaient prises qu'on connaissait. Mais un jour, il y aura des archives de tout ça. Donc, on en saura plus. Bon, néanmoins, pourquoi est-ce que... c'est extrêmement important ce que vous soulignez. Effectivement, faute de savoir gérer correctement sur le plan épidémiologique la pandémie, parce que le gouvernement était relativement démuni, eh ben il s'est dit, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire à moindre frais, c'est une bonne gestion policière. Et donc, tous les efforts ont été mis de ce côté-là, en déployant massivement des forces de l'ordre et en mettant en place un système de coercition et d'interdit extrêmement développé. Une des singularités du cas français de ce point de vue-là, c'est que non seulement il y avait déjà des lois et des décrets au niveau national interdisant de sortir, disant aux gens « bon ben, la règle générale maintenant, c'est vous restez enfermés chez vous pour vous protéger, pour sauver des vies ». Vous vous souvenez de ce slogan hein, « restez chez vous pour sauver des vies ». Bon, ce qui est intéressant de constater, c'est que les préfets, bon, ça c'est assez logique vu qu'ils dépendent du ministère de l'Intérieur, mais aussi énormément de municipalités ont surrajouté des interdits, des règles, oui, d'interdiction aux règles nationales. Et par exemple, une des questions sur lesquelles on insiste beaucoup dans le livre, c'est la fermeture des lieux naturels, qui est très étonnante et qui s'imposait pas forcément pour le coup, qui a été surrajoutée. Interdiction, les forêts, les espaces naturels, les plages, etc., etc., ont été entièrement fermés au public, closes, en plus des règles d'interdiction nationale qui empêchaient déjà, en théorie, de sortir librement de chez soi au-delà d'une heure et d'un kilomètre. Et ça, c'est très étonnant. Et il y a eu une espèce de surenchère, on pourrait dire d'union sacrée, hein, des élus locaux. Il y a eu aucune opposition de quelque côté que ce soit au confinement. Au contraire, on pourrait plutôt dire qu'il y a eu un alignement des pouvoirs publics derrière le gouvernement pour surenchérir dans des décisions qui contraignaient toujours plus les libertés publiques.
Alors, donc, le confinement apparaît comme un prétexte, d'une certaine façon, pour contrôler les populations et pour réprimer la contestation sociale. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce confinement a démarré autour du 17 mars. Or, nous sommes à ce moment-là en plein mouvement des Gilets jaunes. Et en particulier le 14 mars 2020, donc, tous les rassemblements, alors que tous les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits par le gouvernement, il y a un appel des Gilets jaunes à manifester. Et cet appel fait l'objet de critiques au sein même du mouvement des Gilets jaunes. Puisque Maxime Nicole déclare donc, si demain on manifeste, on va passer pour tout sauf des gens intelligents, on va mettre en danger des gens et se mettre en danger soi-même. Et Jérôme Rodriguez va dans le même sens. Donc, on assiste là à un mouvement social qui a été extraordinairement réprimé, d'une extraordinaire violence, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et ce mouvement coïncide avec l'émergence du virus. Je vous avoue que personnellement, et donc la mise en place du confinement, avec tout ce que vous avez largement développé dans votre ouvrage, moi j'ai tendance à avoir quand même, si vous voulez, une corrélation entre ces deux événements. Les Gilets jaunes disparaissent à ce moment-là de la scène publique. Le confinement, en fait, permet d'une certaine façon de mettre fin à un mouvement social d'une extrême importance. Est-ce que vous avez travaillé un petit peu ce lien, par exemple ?
Je ne suis pas sûr qu'il faille faire une corrélation entre les deux. Hein. Le fait est que, ils mettent en place le confinement en suivant l'exemple italien. Il y a une espèce de chemin de dépendance, comme on dit en sciences politiques. Hein. En gros, les gouvernements prennent à peu près les mêmes mesures, sauf, on l'a vu, hein, avec deux grandes directions différentes qui séparent les pays d'Europe du Nord des pays d'Europe du Sud. Bon, le fait est néanmoins qu'évidemment, les interdictions de rassemblement qui ont été pris là dans l'intégralité des pays là, y compris effectivement aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est pareil. Hein, il y avait, on ne pouvait plus se rassembler et faire des manifestations, etc., etc. Bon, ben ça a été l'occasion dans plein de pays du monde, alors plus ou moins volontairement, certains gouvernements en ont profité, ça a été une aubaine pour eux. Est-ce qu'on peut dire la même chose du gouvernement français avec les Gilets jaunes? J'en suis pas certain, mais peut-être que finalement ils ont été relativement contents, in fine, du résultat. Ce qu'on sait, par exemple, et ce dont on parle dans le livre, ça c'est tout à fait avéré, c'est le cas, par exemple, du Liban ou de l'Inde. Oui. Il y avait des mouvements sociaux gigantesques. Bon. Et là, très clairement, les gouvernements hindous et libanais en ont profité pour nettoyer les places publiques au prétexte de se protéger contre la pandémie et mettre fin à ces énormes mouvements sociaux. Ça, c'est sûr et certain. D'une certaine façon, on peut penser qu'en France aussi, bah oui, comme il n'y avait plus le droit de manifester, de se rassembler dans l'espace public, etc., ça a eu également des conséquences très nettes, en partie, même si le mouvement des Gilets jaunes était déjà un peu sur la pente descendante, également sans doute en partie vis-à-vis des Gilets jaunes. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, est-ce que du point de vue du gouvernement français, il y a une volonté véritablement de casser le mouvement à travers le confinement? Je ne suis pas sûr du tout. Je pense pas qu'on puisse le dire comme ça. Le fait est que la pandémie est arrivée à ce moment-là. Peut-être nous dirons des choses, mais voilà, je suis pas sûr. Le fait est que concrètement, vous avez raison. Ça a de fait interdit de manifester. Et quel que soit le type de manifestation demandé. De façon intéressante, hein, une des très rares occasions de remettre en cause la légitimité du confinement, elle a eu lieu à travers une pétition pour réouvrir les espaces naturels. Mais c'est un des très rares mouvements sociaux qui a pas mal marché, parce qu'ils ont eu quand même 70 000 signatures. Alors on peut dire, à l'échelle de la France, c'est pas grand-chose, mais dans la situation du confinement, avec la disparition des intermédiaires, hein, entre l'État et soi, il y avait plus de syndicats, plus de possibilités de se réunir, plus de réunions dans les partis politiques, dans les associations, etc., puisqu'on pouvait plus se réunir. ni sortir de chez soi, etc. Obtenir que 70 000 personnes signent une pétition à ce moment-là, bah, c'est un travail qui a plutôt bien marché. Mais étonnamment, hein, à l'exception de cette pétition-là, il n'y a pas eu de mouvement social pendant ces 55 jours. Voilà.
Je reviens un petit peu. Vous dites qu'à partir donc du 23 mars, les préfets sont autorisés à prendre de manière autonome des mesures souvent absolument délirantes. Hein.
Vous d'adaptation
parlez
locale.
D'adaptation locale. Vous parlez de concours Lépine avec des trucs mais de cinglés, genre de faire démonter les bancs ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Et moi, cette situation, alors encore une fois, c'est pas scientifique ce que je vais vous dire, pour moi, me fait quand même penser à une situation d'occupation. Je veux dire, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où la France était occupée, où la plupart des membres de l'administration française ont embrassé sans barguigner le
ah oui dans ce sens-là
bon,
vous
je, voilà oui, oui, oui. Bon, bon on peut pas le prouver raison, mais voilà. c'est pas scientifique
c'est vrai ce que tu dis mais il y a aussi le fait que justement la population déserte tous les espaces publics mais ces espaces publics se retrouvent tout d'un coup envahis par tout le dispositif policier et les auxiliaires de police. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis aussi, en fait. Hein. C'est quand même extrêmement étonnant comme situation.
C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre. Oui, hein. On pense toujours le confinement, à juste titre, hein, comme un enfermement chez soi. Mais on pourrait voir les choses en retournant l'idée, justement, en disant ça a été d'abord une expulsion du dehors. Avant d'être un enfermement chez soi. Et ça, on peut dire que le travail des forces de l'ordre hein, a consisté à vider l'espace public de toute présence humaine. Ça a été particulièrement le cas dans les espaces naturels, mais aussi en ville. Hein. Et effectivement, ceux qui ont pris la place dans l'espace public, ce sont les forces de l'ordre. Et c'est ça, c'est en partie pour cette raison qu'on essaie de construire une notion qui essaie de rassembler cette idée-là, c'est l'idée d'inquiétement.
Oui, l'inquiétement.
Voilà. L'inquiétement de l'espace public, c'est une notion pour nous importante, hein, qui essaie de décrire l'intranquillité des gens dans un espace qui était complètement bouleversé. Il était complètement bouleversé par le vide, le fait qu'on n'avait plus les repères habituels, notamment en ville, pour se repérer. Il n'y avait plus de lumière, plus de bars ouverts, de restaurants ouverts, plus tellement les transports en commun même, les rues vides, etc., etc. Et puis, un inquiétement renforcé parfois par la présence des forces de l'ordre et, au moins au début en tout cas, parfois chez un certain nombre de gens, la crainte de l'arbitraire. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Est-ce que j'ai bien respecté les règles? Est-ce qu'on va pas me dire que je suis hors des clous pour telle et telle raison? Et parfois, on a eu des choses étonnantes dans les premières semaines du confinement où des policiers ou des gendarmes ont dit aux gens « Non, vous n'avez pas le droit d'être là. » Par exemple, on en a des tas d'exemples dans le livre, hein, mais vous ne pouvez pas venir là acheter une seule baguette de pain à la fois, vous ne pouvez pas être dans une laverie, parce que ce n'est pas un commerce indispensable, une laverie. Or, quelqu'un qui n'avait pas de machine à laver chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien qu'il lave ses habits quand même, etc., etc. Voilà, donc de ce point de vue-là, l'inquiétement de l'espace public, ça a été sans doute quelque chose de très important, oui, pendant au long du confinement.
Et quelles ont été les populations les plus réprimées, les plus celles qui ont eu le plus de PV, le plus d'amendes, celles qui ont subi un acharnement policier
Il n'y a pas vraiment eu de populations les plus réprimées, même si on essaie de montrer que les jeunes des banlieues, etc., etc., ont été plutôt très verbalisés dans l'ensemble. Hein. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une des singularités les plus importantes du confinement. C'est l'idée que, normalement, en temps normal, comme aujourd'hui, il faut quand même une bonne raison aux policiers pour contrôler l'identité de quelqu'un. Ils doivent soupçonner la possible réalisation d'un délit. Enfin, normalement, avoir une bonne raison pour contrôler l'identité de quelqu'un, lui demander ses papiers, etc., etc. Bon. Ce que montrent toutes les enquêtes de sociologie en temps ordinaire, c'est que les gens qui sont massivement contrôlés, ce sont plutôt des garçons jeunes, habillés en jeunes et racisés. Voilà, pour faire vite, hein. Toutes les enquêtes le montrent. Voilà. Si vous dépassez 30 ans, que vous êtes habillé en costard-cravate, etc., vous avez, pas en costard-cravate dans ce cas, mais que vous êtes une femme de plus de 30 ans, etc., vous avez quasiment aucune chance d'être contrôlé que les policiers ou les gendarmes vous demandent vos papiers d'identité. Ça, c'est en temps normal. Cette situation-là, elle est complètement chamboulé, révolutionné par le confinement. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les policiers et les gendarmes n'ont plus besoin d'avoir un motif légitime pour contrôler. Il est donné directement à cause de l'interdiction d'être dehors. Le principe de « normalement, vous n'êtes pas dehors » suffit à être un motif d'interpellation et d'arrêter les gens pour leur dire « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dehors alors que vous devriez... » ou « Madame, qu'est-ce que vous faites dehors alors que vous devriez être chez vous ?» Et ça, ça a un effet très très fort sur le confinement, c'est-à-dire que tout d'un coup, des gens qui n'étaient absolument pas habitués à faire l'objet de la suspicion policière ou des gendarmes, se retrouvent à devoir montrer un papier. C'est-à-dire des gens qui habitent, pour le faire très simple, hein, des femmes qui habitent la campagne et qui ont plus de 50 ans, qui étaient en gros, qui n'avaient jamais vu ni un gendarme ni un policier pour leur demander leur papier, etc., se retrouvent contrôlés. Et pour un grand nombre d'entre elles le disent très bien dans l'enquête Vico, dans les entretiens qu'on a pu faire, ça a été souvent une espèce de choc moral, en disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Tout d'un coup, je suis soupçonné par la police. Hein ». Donc cette idée-là, ce qu'on a appelé dans le livre « La police pour tous », ça, c'est un des effets fondamentaux du confinement, avec une ampleur absolument considérable dans certains départements. Pas dans tous, mais on a pu montrer qu'il y a un certain nombre de départements où le nombre de contrôles de police, donc pour vérifier l'attestation, était aussi élevé que le nombre d'habitants adultes du département. Par exemple, le Lot. Non, la Seine-Saint-Denis, il y a relativement peu de contrôles, mais beaucoup de verbalisations.
D'accord.
Mais donc le contrôlé, mais très verbalisé. Le Lot, c'est l'inverse. Extrêmement contrôlé. De mémoire, il y a 150 000 habitants et il y a eu 150 000 contrôles. Vous voyez ?
En effet.
Hein ? Très très contrôlé, très peu verbalisé, très très peu, 2% de verbalisation sur ce total de contrôle. La Sarthe, 75% des habitants ont été contrôlés. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de départements où l'importance du contrôle policier a été tout à fait étonnante, tout à fait sidérante même. Et c'est ça, je crois, une des principales révolutions du confinement, c'est ça. C'est ce retournement du contrôle de police, la police pour tous. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on était verbalisé derrière. Mais en tout cas, qu'il y avait une surveillance de masse, ça c'est évident, avec un nombre de contrôles considérable. Même si ce n'était pas dans tous les départements, ça dépendait très largement de la politique du préfet et du directeur local de la sécurité publique.
Okay. On va faire une pause musicale. Frédéric
confine le territoire, c'est la Covid qui redémarre. Et oui, le virus a muté, il joue au foot et boit du thé. Tout le monde en télétravail pour pas que l'économie déraille.
Avec ses enfants dans les pattes,
en plus on révisera les maths. C'est très simple dans le commerce, tout est ouvert ou presque. Suffit de lire le troisième tiré. Deuxième alinéa, petit b du grand 3 de l'article 34 du décret.
Personne dans les musées, c'est beaucoup trop risqué. Ces lieux où l'on fait la bamboche. Oui, c'est incontestable que les gens se mettent minables devant des tableaux de Jérôme.
Désastre. Faut aussi fermer les théâtres, car le virus se met en colère sitôt qu'on déclame du Molière.
Rester chez soi en vacances, c'est ce qu'il y a de mieux quand on y pense.
On n'a pas à faire ses bagages, on évite les embouteillages.
Sur les vacances vaccination, on est presque aussi bon qu'à l'Eurovision chaque année. Et si ça sert à rien pour le variant brésilien, y aura Zidane pour nous sauver.
Macron, c'est un spécialiste, épidémiologiste, ses prédictions ne sont jamais fausses. Oui, c'est un puits de science, niveau intelligence, c'est vraiment lui qui a la plus grosse.
Pour ne pas que tu t'embêtes, voici pour toi une devinette.
Si je vais dîner dans un resto, suis-je résistant, suis-je collabo?
Et pour t'aider à passer le temps, poursuivons ce jeu amusant.
Quel est l'intrus parmi ces mots? Métro, boulot, dodo, bistrot.
La Covid, 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 la Covid.
On en a carrément marre de la Covid qui redémarre. Nos souvenirs commencent à être vagues. La vie d'avant la première vague. Rendez-nous le monde d'avant, d'avant le virus et ses variants. Et s'il doit n'en rester plus qu'un, ce soit le variant jamaïcain.
...89.4, et nous sommes le grand soir du mardi, et nous sommes avec Nicolas Mario pour le livre L'Attestation qui vient de paraître aux éditions Anamosa. Alors, on parle donc de cette situation absolument hallucinante de ce confinement. La première partie, on a beaucoup parlé de la police, de la policisation complète de l'espace public, et la deuxième partie, on va plutôt la consacrer à l'obéissance. Cette situation incroyable a été un moyen de d'étudier les conditions sociales de la propension à obéir. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'appelez-vous l'ancrage social du conformisme ? Vous utilisez cette expression. Qu'est-ce qui suscite le respect des règles ? Enfin, vraiment la question de l'obéissance.
Alors, il faut revenir à l'enquête « La vie en confinement hein. ». On a demandé aux gens plein de questions, mais notamment dans le questionnaire, il y avait une quinzaine de questions qu'on a utilisées pour essayer de mesurer du mieux possible les pratiques ordinaires des gens pendant le confinement. Alors, 15 questions qui concernaient que le confinement lui-même. Des questions d'obéissance aux injonctions gouvernementales. Donc ça, c'est est-ce que vous aviez toujours l'attestation sur vous? Est-ce que vous dépassiez ou pas le kilomètre autorisé, l'heure autorisée? Donc là, on demandait aux gens, est-ce que vous dépassez l'heure toujours, quelquefois, jamais, etc., etc. Vous voyez ce genre de questions-là. Bon, 5 questions comme ça sur l'obéissance aux injonctions gouvernementales. Ensuite, on a 5 autres questions sur ce que le gouvernement recommandait sur le plan sanitaire. Se laver les mains, vous vous souvenez, désinfecter les surfaces, se tenir à 1 mètre de distance les uns des autres quand on se croise dans la rue ou dans un magasin, quand on fait les courses, etc. Voilà. Donc là, ce ne sont pas des injonctions, mais simplement des recommandations. Bon, et puis enfin, 5 questions sur, on pourrait dire, les pratiques politiques pendant le confinement. Est-ce que vous avez hué le gouvernement à votre fenêtre? Est-ce que vous avez mis une banderole à votre balcon? Est-ce que vous applaudissiez pour soutenir les soignants? Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Et est-ce que vous êtes allé voter, si, aux élections municipales, là, le dimanche, juste avant le confinement? On a mis toutes ces questions-là ensemble, hein, et ça nous a permis, en gros, de dessiner une espèce de classification des gens, hein, en les rassemblant en 6 groupes, en fonction de leur réponse à cet ensemble de 15 questions. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a des groupes très différents les uns des autres, hein, entre, en gros, ceux qui suivent toutes les recommandations, c'est-à-dire qui obéissent aux règles de sortie, en gros à l'attestation, qui l'ont toujours sur eux, qui respectent le kilomètre, qui respectent l'heure, qui ne font qu'une seule sortie par jour, etc., etc., qui suivent également les recommandations sanitaires. Ils se lavent les mains, ils portent un masque quand ils en ont, ils respectent le mètre de distance entre les gens, etc. Et puis, ils sont allés voter, ils applaudissent les soignants, en gros. Bah ça, si on cumule tout ça, c'est-à-dire, on pourrait dire, les plus conformes, voilà, y compris aux recommandations sanitaires du gouvernement, bah c'est à peine 20% de la population. Et ça, c'est intéressant hein, de constater ça. À l'inverse, mais en même temps, on peut dire que les gens qui ont désobéi systématiquement sont très peu nombreux, à l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a en gros ceux qu'on a appelés les réfractaires, c'est-à-dire ceux qui désobéissent tout le temps, qui, en tout cas, qui dans le questionnaire nous disent « moi, je sortais jamais avec l'attestation ». Vous voyez, jamais. Alors, on peut dire que sans doute, c'était pas vrai. Mais en répondant au questionnaire, ils ont voulu affirmer une position politique en disant « moi, j'étais contre ». Je sortais jamais, je dépassais tout le temps l'heure, je dépassais tout le temps le kilomètre. Ben, cela, c'est 10% des répondants. Mm-hmm. Une toute petite minorité aussi, hein. Donc, vous voyez que, entre ces deux catégories, ceux qui respectent tout et ceux qui respectent rien, on a tout un éventail de gens qui se répartissent différemment. Et on a une catégorie qui est très intéressante. Ah oui, non, je vais dire quand même deux petits mots avant. On a bien différencié, et ça c'est intéressant, les gens qu'on a appelés les légalistes, eux ils obéissent scrupuleusement aux ordres du gouvernement. C'est-à-dire on leur dit, il faut l'attestation, vous n'avez pas le droit de dépasser le kilomètre, ils disent d'accord, on respecte parfaitement les règles. Mais en revanche, hein, ils ne respectent pas les recommandations sanitaires. Donc ça, ça nous a surpris.
Oui, oui, voilà. C'est intéressant.
Ça veut dire qu'en gros, pour eux, on pourrait dire les choses simplement en disant « la peur du gendarme marche bien, la peur du virus beaucoup moins ». Voilà, parce qu'on nous a dit souvent « ah oui, mais si les gens ont obéi, c'est parce qu'ils avaient peur du virus ». C'est tout à fait vrai pour une partie de la population, mais pour une partie de la population seulement. Et on s'aperçoit que les recommandations sanitaires n'étaient souvent suivies que par moins de 50% de la population. Alors que les ordres qui faisaient l'objet de sanctions, hein, c'est-à-dire le port de l'attestation, etc., donc pour lesquels on risquait une amende, étaient majoritairement beaucoup plus suivis que les recommandations sanitaires.
Donc la peur de la sanction était plus importante que la peur du virus.
C'est notre conclusion. C'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Voilà. Et donc ce groupe-là, il se distingue hein, clairement, les légalistes, là, de ceux qui suivent et les ordres et les recommandations. Bon. Et puis, on a encore un groupe extrêmement intéressant, entre 20 et le quart de la population, qui sont ceux qu'on a appelés les claustrés. Mm-hmm. Et ça, c'est un groupe qui se distingue vraiment fondamentalement des cinq autres. Déjà parce qu'il est, c'est le seul, non, un des deux groupes qui est très féminin. Ah oui, les femmes respectent mieux l'ensemble des obligations que les hommes. Ça, c'est intéressant. On essaie de se demander pourquoi aussi. Mais je reviens à ce groupe des claustrés. Eux, c'est un groupe intéressant parce que ce sont ceux qui ne sortaient en gros que pour les choses indispensables, faire leurs courses ou quand ils y étaient obligés, aller travailler. Mais ils ne sortaient jamais pour des sorties dites d'aération, respirer un peu là dans la limite du kilomètre et de l'heure. En gros, ils ont fait le choix de s'enfermer chez eux. Et nous, au début, on s'est dit avec Théo, ben, c'est qui ces gens ? Et on pensait naïvement un peu que ces gens, c'était les plus fragiles, ceux qui risquaient le plus face à l'épidémie, c'est-à-dire plutôt les personnes âgées ou les gens qui avaient des fragilités personnelles qui les rendaient susceptibles d'avoir des formes très graves de la maladie. Or, on a constaté que ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que les personnes âgées, les plus de 60 ans, sont plutôt... Je vais très très vite là, hein, j'exagère, mais sont plutôt des tricheurs, ou en tout cas trichent plus que la majorité de la population. Et ceux qui ont fait le choix de se claustrer, de s'enfermer chez eux, ce sont plutôt des jeunes, plutôt des classes populaires, habitants des grands ensembles, etc., etc. Et on a essayé de montrer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là, en partie parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils maîtrisaient mal les règles, qu'ils ne savaient pas tellement comment faire, et que ils avaient peur qu'on leur reproche de mal se débrouiller. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire du tout qu'ils acceptaient bien le confinement. Au contraire, il y en a qui étaient farouchement opposés aux règles mises en place par le gouvernement, mais ne sachant pas trop comment s'adapter, craignant beaucoup les amendes, etc., etc., ils ont fait le choix de s'enfermer et de rester chez eux.
Évidemment, ça fait penser à la culpabilisation, un processus de culpabilisation mis en place dans les discours officiels, dans la presse, etc. Donc ça a un impact vraiment clairement.
Oui, ça a joué, c'est évident, bien sûr. Ouais.
Parce qu'en fait, se plier aux règles et aux lois ne signifie pas nécessairement qu'il y a reconnaissance du bien fondé de ces règles et de ces lois, en fait.
Complètement. Et ça dépendait évidemment totalement de la situation dans laquelle on se trouvait. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus facile d'accepter une situation de confinement, d'enfermement, etc. quand on a une maison avec jardin, voire quand on habite un petit village avec la forêt toute proche où on peut s'évader discrètement, etc. C'est beaucoup plus facile là de subir le confinement, y compris en n'étant pas d'accord, que quand on habite dans un immeuble, une grande barre d'une ville de banlieue, etc., où on n'a pas d'autre moyen que de vivre dans ce petit studio et pas d'en sortir. Là, le confinement, il a été beaucoup plus dur, et c'est pour ça qu'on considère souvent qu'il a été très dur aussi pour les jeunes, qui souvent, quand ils vivaient comme ça dans ces situations-là, où ils ne sont pas rentrés chez eux, chez leurs parents, ou voilà, en province, etc., etc., ceux qui sont restés dans des petits studios, dans des chambres d'étudiants, etc., évidemment, ont vécu un confinement extrêmement dur, hein, avec une promiscuité très grande, du bruit tout le temps des voisins, l'impossibilité de sortir longtemps, etc., etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes, les étudiants, les lycéens ont souvent été particulièrement marqués par cet épisode.
Et pourquoi c'est les femmes qui sont claustrées ? Comment vous expliquez ça ?
Alors, une des raisons, il y a plein de raisons différentes qui s'enchevêtrent. Il y a déjà parce que les femmes ont la charge du travail familial de façon bien plus importante que les hommes. Et là, en un sens, c'était redoublé parfois par la présence des enfants à la maison, la gestion des devoirs, toutes ces choses-là. Il y a eu également, on le montre bien dans le dernier chapitre, hein, une occasion inespérée pour un certain nombre de maris qui n'aiment pas d'ordinaire déjà voir leur femme sortir dehors. Ben, le confinement a été une occasion inespérée pour eux de les enfermer, de leur dire « tu ne peux pas sortir, c'est pas moi qui te le dis, c'est le gouvernement ». Voilà. Et donc, il y a des femmes qui racontent ça, à quel point leur mari était en quelque sorte heureux de pouvoir, en quelque sorte, les boucler à la maison. Bon. Évidemment, ce n'est pas le cas le plus majoritaire, mais ça a existé. Hein. Et on sait, par des statistiques associatives et plein d'autres, qu'il y a eu une recrudescence des violences familiales contre les femmes pendant le confinement. Et puis, un autre aspect, et j'y reviens, qu'on a déjà évoqué dans la première partie de l'émission, c'est la question de l'inquiétement. Pour beaucoup de femmes, le dehors, qui est déjà pas un espace forcément hyper rassurant d'ordinaire, en temps normal, mais où elles ont des points de repère, des petites habitudes, des manières de faire, des trajets qu'elles connaissent bien, etc., qui leur permettent de, en quelque sorte, sortir quand même. Là, ces espèces de béquilles, de barrières, etc., se sont effondrées dans un monde extérieur qui devenait de plus en plus inquiétant. Troublant, inquiétant, etc. Et c'est sans doute ça qui explique le fait que beaucoup de femmes se sont pliées plus que les hommes aux obligations d'enfermement.
Ah oui, il y a peut-être aussi une habitude culturelle.
Peut-être aussi, qui est plus difficile à
mettre en évidence,
à mesurer. Hein. Mais ouais. Cet aspect-là, je pense, a joué très fortement.
Des rapports de puissance
fortement.
Et de domination.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et alors, vous parlez aussi de gens qui ont pris plaisir au confinement.
Ah oui, oui, parce qu'évidemment, on a l'habitude de penser, comme on pense obéissance, on pense désobéissance, on pense aux réfractaires, à ceux qui se sont opposés, qui ont triché, etc., qui nous ont beaucoup intéressés. Mais il y a aussi, évidemment, et on le montre bien, des gens qui ont pris plaisir. Qui ont profité en quelque sorte du confinement, qui le disent. Alors dans l'enquête Vico, on a énormément de gens et ça c'est très intéressant, qui disent « j'ai eu conscience que j'étais un privilégié, un ou une privilégiée, parce que j'ai une grande maison, parce que j'ai un jardin, parce que c'était beaucoup plus facile pour moi. Hein. » Et c'est pour ça que l'obéissance, on a essayé de le montrer, ou la loyauté vis-à-vis du gouvernement, on la mesure d'ordinaire dans un lien vertical entre les citoyens et les autorités publiques. Bon, donc il y a cette relation verticale, hein, haut-bas, voilà, elle a joué évidemment ici dans l'aspect policier. L'attestation, le risque d'amende, etc., etc. Hein. Beaucoup de gens ont obéi parce qu'ils avaient peur de la police, du risque de prendre une amende, etc., etc. Évidemment, ça a joué, ça a été très important. Mais il y a une autre dimension du conformisme ou de l'obéissance qui est une dimension beaucoup plus horizontale ou latérale, qui est la comparaison entre soi et les autres. Et ça, ça a beaucoup joué dans un sens positif comme dans un sens négatif. Comparaison avec les autres dans un sens positif, c'est comme les riches qui ont l'habitude de qui acceptent de payer l'impôt à partir du moment où ils peuvent le domestiquer, c'est-à-dire profiter de toutes les failles pour payer moins, etc. Bon, ben il y a eu un peu la même chose pendant le confinement. Dès qu'on avait le sentiment d'avoir un petit privilège, on acceptait mieux le confinement. Ouais, c'est un peu une règle assez simple. Hein. Si on se sent un peu privilégié par rapport à autrui, qu'on se donne, qu'on sait se loger dans les petits interstices qui permettent de vivre mieux le confinement, eh bien, on s'adapte beaucoup mieux. Alors, c'est évidemment la maison avec jardin en premier lieu, mais c'est aussi, par exemple, on a pu le montrer, avoir un chien qui permet de sortir plein de fois, ben un petit privilège, mais qui permet de sortir un peu discrètement au prétexte d'aller faire pipi au chien plein de fois dans la journée, contrairement aux gens, voilà. Ou par exemple, les jardins partagés. Bon, ben, peut-être peu de gens le savent, mais une des petites singularités du confinement, c'est qu'on avait le droit de rejoindre un jardin partagé. Et d'y aller plus longtemps que l'heure, etc., etc. Bon, ben ça, c'est le genre de petit privilège qui rendait le confinement plus acceptable. Et l'autre dimension, cette fois beaucoup plus négative, hein, mais qui a été très présente aussi du confinement, de se comparer à autrui, ça a été évidemment les dénonciations. Oui. Dès que les gens ont eu l'occasion, une des manières d'obéir, c'est de montrer l'exemple, soit de dire « moi, je suis quelqu'un de respectueux du confinement », ou aussi c'est de dire ben, « j'en ai ras-le-bol parce que les autres ne respectent pas le confinement ». Donc vous voyez bien, c'est demander des règles supplémentaires ou demander des contrôles supplémentaires pour obtenir que tout le monde respecte le confinement à égalité. Cette idée-là, elle est très forte. Tant que c'est à égalité, ça va. Vous voyez, dans l'expression « pouvoir arbitraire », ce qui devenait important, c'était moins le pouvoir que le risque d'arbitraire. Et beaucoup de gens ont concentré tous leurs efforts à essayer d'exclure l'arbitraire du confinement. Et par exemple, ils ont dénoncé chez leurs voisins toutes les entorses. Entorses au bruit, les enfants qui jouent trop fort dehors, les barbecues éventuellement organisés dans le jardin, dans un lotissement, toutes ces occasions-là de débordement, de non-respect des règles, ont fait l'objet de dénonciations extrêmement nombreuses à la police, à la gendarmerie, aux élus locaux, ou même, je pense à vous, là devant le micro, aux radios locales. Plein de radios locales ont raconté ça en disant « mais notre standard est submergé de gens qui téléphonent pour dénoncer leurs voisins, pour dénoncer tel comportement de non-respect du confinement ». Et donc c'est aussi dans la comparaison avec autrui que se forge l'obéissance, en quelque sorte, on pourrait dire.
Ce que vous évoquez, en fait, me fait penser que aux effets pervers, en fait, d'une décision qui va être mise en œuvre, hein, etc. Là, donc, et les effets pervers, il y en a, à mon sens, au moins trois. Un dont vous avez déjà parlé, qui sont la violence conjugale, l'enfermement dans le foyer, mm-hmm. etc., face à une situation tout à fait exceptionnelle. Le règlement de compte entre voisins, que vous venez d'évoquer, mais il y a aussi, à mon avis, et d'ailleurs vous l'avez évoqué aussi, un effet pervers, parce que la police s'est sentie autorisée, pour la première fois, à vraiment investir de façon légitime, entre guillemets, tout l'espace public. Donc, Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ce type de conséquences qui sont quand même extrêmement graves ? Contre les femmes, contre la population, contre le lien social qui a été totalement déconstruit pendant le confinement.
Ben c'est une des questions fortes qu'on essaie de poser avec le livre. Ce qui nous a beaucoup étonné avec Théo, c'est l'absence de bilan de cette expérience après coup. C'est-à-dire, autant il y a eu énormément de travaux sur la dimension sanitaire ou médicale du confinement, ça il y en a plein, on en cite plein dans le livre, sur le site internet, dans la bibliographie, ça il y a eu énormément de travaux, de publications partout dans le monde, hein, pas seulement en France, à ce sujet. En revanche, la dimension, comment on va l'appeler, répressive, hein, d'enfermement du confinement, elle n'a pas fait l'objet de bilan. Idem pour la question de l'attestation, le nombre de contrôles, le nombre de verbalisations, etc., etc. Curieusement, dans les pays latins, j'ai essayé de regarder ce qu'avaient produit nos collègues espagnols ou italiens, et ben il y a rien sur la sévérité de la répression des sorties, etc., en Espagne ou en Italie, et en France non plus. Le gouvernement ou l'Assemblée n'a pas fait ce travail-là. Hein. Il y a eu des commissions d'enquête parlementaire, mais qui consacrent 2 pages à peine aux conséquences, effectivement, pourtant très profondes du confinement sur tout ce que vous avez rappelé, l'effondrement du lien social, des libertés publiques, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller jusque-là, etc., etc. Bon, on a eu effectivement très très peu de choses, de bilan là-dessus. Et ça, c'est une des choses étonnantes, me semble-t-il, après cette expérience. On pourrait essayer d'en tirer les leçons, notamment pour l'avenir, parce qu'il est à peu près probable qu'on fera face un jour ou l'autre à une autre pandémie du même ordre. Et est-ce qu'on fera la même chose? Comment? Voilà, c'est des questions qui restent pendantes, ouvertes. Bon, voilà, sur lesquelles on n'a pas beaucoup de réponses. Et puis, un des autres effets, quand même très importants du confinement, ce sont les conclusions, les conséquences qu'il a eues en termes de déploiement de la force publique. Bon, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que le confinement a été la première occasion où des drones ont été utilisés dans l'intégralité des départements français. Jusque-là, c'était pas le cas et c'est la première fois, au printemps 2020, que des drones sont utilisés absolument dans tous les départements. Qu'on a retourné les caméras dites, c'est quoi le terme officiel? C'est pas des caméras de surveillance, mais c'est comme ça que...
Vidéoprotection.
De vidéoprotection, voilà.
Oui, ben là, en gros, c'est totalement orwellien. Voilà,
n'ont pas été du tout de vidéoprotection, puisqu'elles ont été retournées des questions de supposées de protection contre les actes malveillants dans la rue, vers un objectif très clairement de surveillance des gens et de la population entière dans le pays. Et puis, on a montré qu'il y a eu un déploiement des forces de l'ordre absolument étonnant pour vérifier que la vidange de l'espace public avait été menée à bien. Donc, usage systématique de l'hélicoptère avec caméra infrarouge, des drones, avec caméra là aussi, avec haut-parleur, enfin, toutes ces dimensions-là. Même dans les forêts, au contraire. D'autant plus dans les forêts et dans les espaces naturels, avec les membres de l'ONF, enfin, tous les fonctionnaires d'État ont été mobilisés, hein, y compris des gens qui n'ont pas le droit de verbaliser, comme les gardes-pêche ou voilà, pour surveiller, demander aux gens leur attestation, vérifier qu'il n'y avait pas de gens qui se promenaient dans les forêts, etc., etc. Donc cette dimension, elle est très forte, on n'en a tiré aucun bilan. De la même façon, hein, l'amende de quatrième catégorie, qui est passée d'une somme, bon, qui était déjà pas ridicule pour les gens les plus modestes,
c'était
35 euros.
135,
oui, mais avant le confinement,
ah oui.
Et donc elle est passée à une infraction de quatrième classe, 135 euros. Oui. Et évidemment, on n'est pas revenu en arrière entre-temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infraction de quatrième classe, par exemple, quand il y a des interdictions de manifester d'arrêter, hein, déclaré par la préfecture de police de Paris, et que la police met des amendes, elle met évidemment à cette occasion des amendes de 135 euros. Hein. Et ça, on ne reviendra pas en arrière, c'est évident. Donc vous voyez, ça, ce sont des conséquences effectivement directes du confinement et de sa politique.
Mais ça pose une question capitale. Enfin, certaines personnes critiquent évidemment de la politique de l'État. On dit que c'était donc une expérience massive de voir si la population obéissait. Là, l'expérience ayant été réussie. Et beaucoup de gens parlaient de ça comme d'un bon décès.
Exactement.
Susceptible de se reproduire si l'occasion se présente. Ce qui est comment vous voyez vous cette histoire du bon décès
répétition générale
ou répétition générale c'est
voilà,
ça
pour la mise en place d'une société
test grandeur nature de la faculté de soumission de la population.
Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à l'idée de société totalitaire, mais en tout état de cause, il est évident que si un gouvernement plus répressif arrivait au pouvoir, il aurait déjà en main tous les outils pour procéder. Et peut-être conclure là-dessus, hein, il est évident que l'accumulation des états d'urgence, on a eu longtemps l'état d'urgence antiterroriste, puis maintenant, pendant un long moment aussi, l'état d'urgence sanitaire. Cette accumulation de règles hors normes, on va dire, spécifique à un moment avec où on suspend les libertés publiques ou l'ordre public ordinaire, eh ben, il a des effets à long terme effectivement forts et il donne tous les armes en tout cas au gouvernement pour régulariser des situations d'exception, on pourrait dire.
Oui, on voit d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore du temps, mais c'est pas la même situation, mais il va y avoir les Jeux Olympiques où aussi vont se produire des mesures d'exception. Oui. Voilà, je crois que mon arrive.
C'est très intéressant.
Voilà.
Bon.
Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission.
Nicolas, merci.
Nicolas, merci. Je répète le bouquin qui est passionnant, L'attestation aux éditions Anna Mozart. L'adresse mail, on la mettra sur le site du groupe Libertaire La Rue, parce qu'elle est un petit peu compliquée à épeler. Et je remercie notre technicien bien-aimé, Frédéric. Et Nicolas... Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à la prochaine.
Au revoir.
Pourra l'habiller chez la môme à langue verte ou bien chez Littré. Ta parole, ma parole, ça fera briller des yeux. On pourrait dire des mirettes ou
des quinquets qui se mettent en fête. On pourrait dire en tenue de soirée des yeux, on pourrait dire la taverne où l'on s'anivre, où l'on hiverne. On pourrait dire les lanternes où mon ombre s'en va pesant tellement, tellement. Parole à froid toute nue, ta musique économique lui brode un fichu, en do dièse que ça plaise ou non c'est réglé, ta parole à ma parole, ça fera vibrer des voix. On pourrait dire des violoncelles ou des hautbois ou des crécelles, on pourrait dire n'importe quoi, des voix qui vont sous la ramée ou qui vont sur la mer calmée. On pourrait dire qui sait quoi, la voix du diable ou d'un enfant,